À l'espace culture de la Cité scientifique de Villeneuve-d'Ascq jusqu'au 27 octobre 2022 est présenté Plantoïdori, une exposition de l'artiste Devi Brunet qui marque la fin de sa résidence AirLab, artiste en immersion aux recherches dans un laboratoire, est un projet du département culture de l'Université de Lille soutenu par Le Frénois qui met en relation artiste et chercheur. Dans le cadre de sa résidence, l'artiste spécialisé en pliage s'est associé à l'équipe Defrost de INRIA, expert en robotique déformable. La traversée de l'exposition se fait dans l'univers musical de Sauda, créateur sonore. Découverte.
Eh bien, bienvenue à l'Espace Culture où j'inaugure Plantoïdori, une exposition donc du 5 septembre au 27 octobre et qui présente un peu l'aboutissement de mes recherches dans le cadre de la résidence AirLab qui est autour de la thématique des technologies et de la botanique, on va dire. Donc je cherche à en fait encourager des nouvelles sensibilités envers les robots et le règne vivant. Donc vous pourrez découvrir une exposition immersive faite de pliage, puisque moi je suis artiste plieur. Et donc j'ai collaboré ici avec un laboratoire spécialisé en robotique souple. Donc j'ai pu animer en fait mes pliages, ce dont je rêve depuis très longtemps. Donc on peut petit à petit s'immerger dans cette exposition qui est donc semi-immersive, avec des grandes constructions organiques qui peuvent faire penser à de la roche, de la lave, à un univers sous-marin ou dans l'espace, libre à chacun de l'interpréter comme il veut. Je m'intéresse beaucoup aussi aux hybridations, donc à toujours se demander est-ce que c'est quelque chose de vivant, est-ce que c'est technologique, est-ce que c'est minéral. Donc on est toujours sur ces ces questions de la matière qui est là. Donc au fil de l'exposition, il y a une forme de substrat de papier froissé qui a été fait à partir de papier sulfurisé teint à l'encre de Chine et après froissé à la main. Et là viennent petit à petit, on découvre des pièces en origami, en pliage de papier et en pliage de textile, en plissage, qui sont animées petit à petit. Donc si on prend le temps de découvrir, de regarder, d'écouter aussi, on remarque des œuvres qui s'animent.
Ces œuvres en blanc, ça fait un peu penser à des anémones de mer.
Effectivement, ça revient souvent, effectivement, ces questions-là. Et c'est ça qui est chouette, je trouve, c'est que chacun a une interprétation un peu différente. Il y en a qui voient le fond des océans, et il y en a qui voient complètement dans la lune. Donc, et puis on se demande parfois aussi si c'est microscopique ou macroscopique, à quelle échelle on se situe. Voilà. Et donc moi, je m'intéresse aussi beaucoup en tant que plieur, en fait, à ces logiques du vivant, puisque le pliage, en fait, est un des langages du vivant. On va retrouver le pliage partout, en fait, que ce soit à la surface de notre peau, dans une fleur qui éclot ou dans les roches qui sont condensées, il y a des formes de pliage, ça structure la matière et le vivant.
Donc ces sortes de murs noirs, on peut imaginer aussi une suite d'éruptions volcaniques par exemple, avec de la lave qui s'est consolidée d'une certaine manière. Donc c'est un mur noir, enfin ce sont des murs noirs, et le blanc ça symbolise plus la vie alors.
Voilà, et donc on se situe aussi toujours dans ces contrastes-là. L'exposition a été aussi intégrée dans le cadre de l'île 3000 Utopia Lille. Et donc, pour moi, c'est aussi, alors libre à chacun de voir ici une utopie ou une dystopie, mais en tout cas, effectivement, on se situe dans un univers imaginé, futur, où les espèces vivantes ou technologiques sont revues autrement.
Alors, on imagine souvent que, suite à des éruptions volcaniques, etc., une partie de la vie s'arrête, mais on a beaucoup vu aussi des graines qui repoussent, certaines plantes même qui ont résisté. Hein. Il y a un arbre, par exemple, célèbre en Chine, qui a résisté aussi à la lave et à la fusion.
Oui, absolument, le ginkgo est très résistant. Il y en a plusieurs comme ça qui sont assez... assez fou et mon exposition parle aussi de ça. Moi, je me suis intéressé plus spécifiquement dans le vivant ici. Ma principale source d'inspiration, même si elle n'est pas forcément évidente, c'est le règne végétal. C'est de se dire que, en tout cas, les plantes, on a toujours tendance à les considérer comme des objets ou des ressources pour nous faire respirer. Et on n'a pas vraiment ce rapport empathique comme on pourrait avoir avec des animaux. Et je me suis posé beaucoup la question de pourquoi est-ce qu'on manque de relation ou de sensibilité envers le règne végétal qui représente 80% de la biomasse terrestre. Et alors, est-ce que c'est le fait qu'on n'a pas un côté anthropomorphique, on se voit pas en nous? Ou une de mes grandes questions, c'est, je pense que le règne végétal se situe sur une autre temporalité du mouvement. On pense que les plantes ne bougent pas, mais en fait, elles bougent. Elles ne bougent juste pas à la même temporalité que nous. Et donc, c'est un peu aussi ce que j'ai voulu créer ici, c'est par des mouvements un peu lents, parfois saccadés, de respiration, de réfléchir, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi ouvrir nos yeux à d'autres formes du vivant qui vivent, qui sont intelligents d'une autre façon et qui ont d'autres sensibilités.
C'est vrai qu'elles ne bougent pas au sens où on l'entend, mais elles peuvent se déplacer, elles peuvent effectivement bouger, soit avec le vent, soit ne serait-ce qu'en croissant. Et puis aussi, elles essaiment.
Oui, oui, absolument. Elles vont se. Il y a plein de formes de déplacement effectivement des plantes. Et alors je le relie aussi à puisque cette exposition donc est l'aboutissement d'une résidence quasiment d'un an dans le cadre de AirLab et où j'ai collaboré donc avec un laboratoire spécialisé en robotique déformable. Donc ils font des robots mous. C'est une nouvelle discipline de la robotique molle et ils s'inspirent beaucoup du vivant. Beaucoup de leurs robots vont être inspirés de tentacules, de pieuvres ou de trompes d'éléphants et ils vont vraiment s'inspirer du vivant, donc ce qu'on appelle le biomimétisme ou bio-inspiration. Et ce qu'on remarque en fait, c'est qu'en technologie ou dans les robots mous, on va se cantonner à s'inspirer souvent que du règne animal. Et il y a peut-être plein d'autres innovations qui sont à ouvrir aussi en s'inspirant des champignons, des plantes pour recréer, s'inspirer justement de l'intelligence qu'elles sont à se déplacer, à s'adapter à leur environnement, etc.
Alors c'est vrai que les premiers robots, on les voyait plutôt comme des reproductions d'hommes avec leur niveau de capacité. Depuis, effectivement, on s'est sûrement dit qu'au-delà des hommes, il y avait d'autres animaux qui avaient des capacités différentes, sinon supérieures, et qu'en plus de ça, évidemment, les plantes ont un autre apport.
Oui, absolument, absolument. Et puis, après, c'est la question du croisement aussi. C'est le titre de mon exposition, donc Plantoïdori, c'est plantes oïdes comme le robot et ori pour le pliage. Donc c'est un peu les androïdes, par exemple, c'est des humains robotisés qu'on peut aussi trouver dans les animaux robotisés. Mais quel est le nom qu'on donne à une plante robotisée? Et j'associe un peu les deux parce que je pense, en tout cas c'est une de mes théories, de se dire qu'on a, c'est notamment le travail de Gilbert Simaudon et Baptiste Morisot qui m'a beaucoup inspiré, et qui tous deux parlent d'une crise de la sensibilité, on va dire, et qu'on a perdu ou pas encore trouvé des voies de sensibilité vers le règne du vivant et le règne des technologies. Et souvent, on a, je trouve, un aspect assez dichotomique sur la technologie, ou bien on va être fan et on va la fantasmer comme des innovations qui vont révolutionner le monde, ou bien on en a très peur et on s'en éloigne. Et sur le vivant, c'est un peu pareil. Des fois, on a une vision très romantique de la nature, sauvage, etc., ou bien une vision très fonctionnaliste, on va dire, de la nature qui nous sert à nous. Et je pense qu'en associant ces enjeux et ces questionnements technologiques et écologiques, on va dire, environnementaux, on peut réussir à trouver des subtilités et des points de raccrochement entre les deux.
C'est vrai que la science a pas mal travaillé sur le vivant en général et aussi le minéral. Et souvent, il y a des, on va dire, pas des passerelles, mais des limites qui sont un peu floues entre les différents règnes.
Oui, et c'est souvent ça qui va m'intéresser, en tout cas, sur l'aspect plastique, sur les techniques aussi que j'utilise. Ici, j'utilise des techniques aussi variées que trois techniques de pliage, l'origami, pliage de papier, le plissage textile qu'on voit normalement dans la couture, le froissage structuré qu'on voit très peu, mais il y a aussi de la robotique derrière, de la soudure, de la couture, etc. Donc j'aime aussi hybrider les techniques et pour créer des œuvres aussi qui se situent dans un flou, ou en tout cas à la frontière de plusieurs choses. Donc on est vraiment sur des œuvres organique, mais en même temps très abstraite.
Quand Comment se fait l'approche du public, la clé d'entrée pour lui, qu'on pourrait lui donner d'ailleurs, là, profitons du micro?
Alors, c'est toujours à double tranchant. Moi, j'ai toujours tendance à croire qu'en tant qu'artiste, à partir du moment où j'ai créé une œuvre et que je la propose au public, elle ne m'appartient plus et c'est à lui d'en décider de comment il la voit, etc. Néanmoins, il y a quand même une réflexion que j'ai menée, puisque c'est un projet quand même assez spécial, qui n'est pas uniquement artistique, c'est vraiment un projet art-science, où j'ai eu toute une phase de recherche pendant plus de 6 mois, et puis une phase de création. Ici, on voit surtout la phase de création, mais à la fin de l'exposition, il y a tout un aspect de médiation aussi, où je présente tout le travail et toutes les recherches que j'ai menées au sein du laboratoire Defrost d'INRIA.
Qu'est-ce que ce laboratoire a apporté au travail de l'artiste ?
Alors, de manière déjà évidente, on va dire des compétences techniques déjà pour créer des robots et savoir comment on les utilise, etc. Des questions de capteurs, voilà. On va dire des questions d'ordre technique dont je n'ai pas les compétences et je les ai acquises, j'ai pu collaborer, etc. Mais au-delà de ça, je pense que le plus intéressant, c'est justement ce que présente AirLab, c'est en faisant collaborer artistes et chercheurs, l'un comme l'autre vont réussir à ouvrir en fait des nouvelles voies dans leur travail. J'ai tendance à croire que l'artiste est un chercheur raté et le chercheur est un artiste raté. En tout cas, c'est la même face d'une même pièce et que de temps en temps, on cherche la même chose en prenant des chemins différents ou inversement. Et il y a plein de choses qui apparaissent en fait dans ce processus de collaboration qui vont être très intéressants. Je donne toujours cet exemple assez parlant de quand on est en train de créer un robot ensemble avec l'équipe des Frost. Ils ont tendance, donc eux, ils sont spécialisés en modélisation surtout. Donc ils vont essayer de comprendre comment fonctionne le robot, comment on peut prévoir ses mouvements, etc. pour que on sache exactement où il va pour des applications dans la médecine ou autre. Et donc, dans leur processus de création, souvent, tout ce qui est glitch ou un moteur qui ne marche pas ou quoi que ce soit, ils vont vite le mettre de côté et essayer que ce soit parfait, qu'on ait le mouvement qu'on veut atteindre. Et moi, je fonctionne beaucoup par sérendipité. Donc, ces glitches et ces choses qui vont être mis de côté par les chercheurs, moi, ça, c'est une matière pure qui est assez géniale à retravailler et à venir chercher. Et après, c'est aussi, je pense, une réflexion sur l'esthétique qui est créée. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui travaillent dans le monde des technologies, qui sont en train de créer des robots, qui sont en train de créer aussi toute une esthétique, un imaginaire, sans forcément le savoir ou sans forcément le vouloir, mais ils sont en train de participer à créer une culture technologique, entre guillemets. Et je pense que tout le monde peut s'investir là-dedans, que ce soit les artistes ou d'autres personnes. Et je pense qu'il faut s'y investir et prendre ça à bras-le-corps, parce que la technologie, on est au tout début et elle va prendre une place gigantesque. Et qu'on peut tous, par des moyens divers, que ce soit technologique ou de l'ordre du sensible ou autre, le questionner, se l'approprier et participer à créer cet imaginaire aussi, que ce ne soit pas juste uniquement par des chercheurs ou des start-upers ou des grands industriels ou autres. Ouais.
Alors, ce n'est pas la première expérience de l'Université de Lille quant à des partenariats avec des scientifiques, avec des labos et des artistes. Est-ce que certains scientifiques vous ont confié ce que cela avait apporté à leur univers, sinon à leur vie, de travailler avec un artiste ?
Alors, je pense que déjà de but en blanc, et c'est, je pense que c'est perturbant de base, mais moi aussi, ça a été perturbant, je pense, parce que on cherche pas forcément les mêmes choses et je pense qu'on a aussi parfois des a priori un peu sur les métiers. Je pense que sur le métier d'artiste, par exemple, beaucoup vont croire qu'on cherche absolument à créer quelque chose de beau, par exemple, que ce soit l'esthétique qui prime d'abord, alors que pas du tout. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est important, mais c'est un plus. Si je peux questionner ou faire réfléchir, c'est d'autant plus important. Donc, je pense que d'une part, ça a ouvert, en tout cas, de ma part et de leur part, une vision nouvelle sur l'art, sur la science, sur le métier d'artiste et sur le métier de chercheur. Et après, concrètement, je pense que sur les innovations, on a tout de suite participé aussi à cette collaboration. On avait déjà collaboré ensemble en 2019 avec le laboratoire. Et en fait, ça marche très bien parce qu'ils travaillent sur donc, des robots mous, des robots souples. Et moi, en fait, mes matières sont aussi tout à fait souples et sont flexibles, etc. Et par exemple, ma manière de savoir comment elle bouge, c'est par intuition et c'est par expérience. Donc par exemple, je peux prédire comment un pliage va bouger, comment un robot va bouger, parce que j'en ai l'expérience. Et les chercheurs, par exemple, ont tendance à vouloir plutôt le modéliser et passer par un logiciel qui va nous permettre de savoir comment il bouge. Mais donc l'objectif est des fois le même, on veut savoir comment le moteur va bouger, mais des fois ça marche par intuition, des fois ça marche par un logiciel ou autre. Et après, concrètement sur les innovations, je pense que le labo défrosse, en tout cas je l'espère, qu'il y a plein de robots pliés aujourd'hui qui sont adaptés à des applications très précises, que ce soit en médecine, que ce soit dans l'aéronautique aujourd'hui. Eh ben, le pliage fait partie des innovations une fois qu'on est sorti un peu des caricatures de l'origami, enfantin, figuratif, etc.
Reste maintenant au public de s'approprier ses œuvres et l'idée de l'artiste, l'intention aussi, on vient de l'exprimer. La création de l'exposition, enfin le vernissage va avoir lieu bientôt, mais l'idée c'est de la présenter pour la première justement fois à l'Université de Lille.
Oui, absolument. Donc ça, c'est l'aboutissement vraiment de quasiment un an de travail en collaboration avec le labo d'Efros, d'INRIA. Donc une exposition immersive. Et je réfléchis déjà à la reproposer en 2023-2024. Donc je cherche aussi actuellement des lieux en France ou en Belgique pour reproposer cette œuvre. Et donc œuvre aussi qui s'adapte. Moi, j'ai tendance à toujours m'adapter aussi au lieu, à faire de l'immersif. Et donc j'imagine aussi que c'est une première version et qu'elle va aussi évoluer dans les formes que ça va prendre, le mouvement des robots que ça va créer, en fonction aussi peut-être des retours que je vais avoir.
Bien, merci. Donc on va rappeler votre nom.
Donc je m'appelle Dewi Brunet.
Et la présentation de l'exposition qui va durer
jusqu'au 27 octobre.
À l'espace culture de l'Université de Lille.
Voilà.
Et c'est à métro Cité Scientifique.
C'est ça, exactement.
Bien, merci, bonne continuation. À bientôt.
Merci, à bientôt.